Pour la prédication de la parole. Dans le livre des Actes, il faut que je nettoie mes yeux, je vois pas très bien. C'est peut-être les yeux. Donc, nous reprenons notre un peu le thème sur la série que nous avons commencée, petite série sur le vrai disciple. C'est important, hein, la Bible parle beaucoup de disciples. Je crois qu'il y a, si mes souvenirs sont bons, 274 fois le mot disciple contenu dans la Bible, essentiellement dans le Nouveau Testament et particulièrement dans le livre des Actes, hein. Donc, c'est dire l'importance que la Bible accorde aux disciples, à ce qu'est le vrai disciple. Et on avait vu, je vous rappelle, le vrai disciple et la nouvelle naissance, le vrai disciple, je croyais, et la vie, hein, du maître, le vrai disciple avec, et la parole de Dieu, le vrai disciple, avec la mission que Dieu confie, le fait de faire des disciples, le vrai disciple et le prix à payer. Hein. On a vu que le disciple, être disciple, c'est payer un prix aussi. Et puis, nous verrons, je pense la semaine prochaine, le vrai disciple est un thème qui est très important, et la souffrance. Parfois, on pense, quand on est un disciple, eh bien, on ne doit pas, de Christ, on ne doit pas souffrir. Et on veut voir ce que la Bible enseigne là-dessus. Mais ce matin, nous voulons voir un peu le vrai disciple et la communion de l'Église. La communion de l'Église, la communion dans l'Église. Quel rapport entretenons-nous avec l'Église locale? Quelle importance revêt l'Église à nos yeux? Et est-ce important de se rassembler chaque semaine? Pour tout le monde, ça n'a pas la même importance. Et les chrétiens souvent entretiennent un rapport assez, on va dire, étrange avec l'Église. Parfois, on dit qu'on fait partie d'une Église, d'une assemblée, mais on ne s'y rend pas souvent. Les gens qui font partie, qui viennent que pour les grands événements. Ou parfois, on choisit les rencontres dans lesquelles on peut ou on veut bien insister. Et puis, il y a de ceux qui disent, mais aussi, ce qui est important, ce n'est pas l'Église locale, mais c'est l'Église universelle. Moi, je fais partie de l'Église universelle. Et je ne suis pas rattaché forcément à une Église locale. Alors, on ne pourra pas étudier vraiment tout ce que la Bible dit de l'Église ici, mais dans la Bible, il y a beaucoup de citations qui concernent l'Église et les Églises. Et je crois qu'après de, j'ai pas compté, mais il faudrait quelqu'un appeler, je crois qu'il y avait plus de 70 fois, 77 fois peut-être que le mot Église était utilisé, soit au singulier, soit au pluriel, et que dans 80% des cas, il s'agissait d'Église locale, hein. Et il y avait, bien sûr, il est question de l'Église universelle, mais dans une grande majorité de cas, il s'agissait de l'Église locale. D'ailleurs, les épîtres que nous lisons sont souvent adressées à des églises. On est resté pendant une année et 9 mois sur l'épître de Paul aux Corinthiens, et ça commence à l'Église de Dieu qui est à Corinthe. Hein. Et puis, on parle de l'Église de Jérusalem, la Bible parle de l'Église d'Antioche. Hein. L'apôtre Paul parle des églises qui vous saluent. Donc, on peut dire que la notion d'Église localisée en un lieu géographique revêt certainement une importance. Et peut-être pour voir la relation qu'entretient le vrai disciple avec la communion de l'Église, avec l'Église locale, eh bien, il nous faut aller retourner un petit peu au début, prendre un peu de cette fraîcheur matinale, hein, de la toute première église à Jérusalem. Et on peut apprendre de cette église, je crois, ce que c'est que la relation qu'elle qu'entretient le disciple avec l'église locale. Donc je vous invite à regarder dans le livre des Actes des Apôtres, le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2, au chapitre 2. Le livre des Actes au chapitre 2, et nous allons lire à partir du verset 41. Actes chapitre 2, à partir du verset 41 jusqu'à la fin du chapitre. Écoutons attentivement la parole de Dieu. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun d'eux et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. On priait. Seigneur notre Dieu, nous avons besoin de toi, de ta direction pour comprendre et saisir ta parole. Nous te prions de nous éclairer, d'illuminer nos cœurs par ton Esprit Saint pour que ta parole puisse être claire à notre entendement et à nos cœurs. Guide-nous, nous t'en prions, en ton nom et pour ta seule gloire. Amen. Donc le vrai disciple est la communion de l'Église. On peut voir déjà dans ce passage qu'il est question au début du texte que nous avons lu de disciples, et puis à la fin il est question d'Église. Il est question de ceux qui sont devenus des disciples, et puis il est question de ceux que Dieu, que le Seigneur ajoute à l'Église. Et il dit que c'est ceux qui étaient sauvés qui étaient ajoutés à l'Église. Alors notre définition parfois de l'Église est bien floue. Si on nous pose la question qu'est-ce que l'Église, je pense que nous aurions sans doute des réponses bien différentes à apporter à cette question. Et peut-être on commencerait par regarder ce qui est dit là dans ce texte et on dirait voilà comment doit faire une Église. Elle doit partager les biens. Les uns doivent vendre leurs propriétés et partager le produit aux autres. On doit faire jouer le principe des vases communicants. C'est ça, une église. Peut-être que quelques-uns peuvent penser comme cela. Et je crois que beaucoup de gens, vous pouvez trouver beaucoup de livres sur la définition de l'église et parfois on trouve beaucoup de choses. Des choses et en même temps leur contraire. Mais il est bon, je pense, de se référer vraiment à ce qui est dit ici au commencement pour avoir une idée juste de ce qu'est l'Église et plus particulièrement, je crois, des personnes qui composent l'Église. Alors, bien sûr, le terme Église, c'est le sens, c'est l'assemblée de ceux qui sont appelés hors d'eux. C'est ça que ça veut dire, le mot Ecclésia, c'est l'ensemble de ceux qui sont appelés hors d'eux. Le peuple appelé hors d'eux. C'est le même mot qui veut dire assemblée dans d'autres lieux de la parole. Je pense que c'était à l'époque de l'apôtre Paul dans le livre des Actes au chapitre 18 où il dit voilà qu'ils avaient les gens avaient s'étaient assemblés, s'étaient mis en église. L'église c'est vraiment l'assemblée, particulièrement en ce qui concerne l'église chrétienne, c'est l'assemblée de ceux qui sont appelés hors d'eux et donc qui constituent un corps bien particulier. Mais ce que l'on voit ici, sur quoi je veux insister surtout, sur la composition de l'Église. Premièrement, donc, vous pouvez voir que l'Église est composée exclusivement de disciples. L'Église est composée de Dieu, est composée exclusivement de disciples. Notre texte commence en disant « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples augmente. » Et ensuite, il dit « Ils persévéraient dans l'enseignement. » Ces disciples continuaient à persévérer dans l'enseignement. Et ce groupe qui est décrit ici, cette église qui est décrite ici, c'est l'ensemble des disciples, environ plus que 3000 personnes, nous dit le texte ce jour-là. Donc l'Église est la communauté de disciples, de ceux qui ont cru et qui croient à la parole de Dieu, ceux qui se sont séparés du monde, premièrement. Regardez au verset juste avant, lorsque l'apôtre Pierre prêche, il est dit ici au verset 40 qu'il termine, après la question que lui posent ses auditeurs, au verset 37, qui disent « Hommes, frères, que ferons-nous ?» Eh bien, Pierre dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait en disant « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Autrement dit, séparez-vous de cette génération perverse. Et donc, l'Église est constituée de disciples, et les disciples sont ceux qui se sont séparés du monde, ceux qui se séparent du monde. Et ce cri d'exhortation de Pierre est vraiment un cri très fort dans lequel il supplie ses auditeurs de ne pas demeurer seulement avec un cœur qui est touché, qui est vivement touché, mais de se séparer, de se détourner de ce monde. Et c'est ça, la repentance, c'est de se détourner, de changer à l'égard du monde, à l'égard de Dieu, de quitter, l'apôtre Paul disait ça des Thessaloniciens, vous vous êtes détourné des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Donc beaucoup parfois veulent embrasser le christianisme d'un bras et puis garder l'autre bras autour du monde. Et on veut marcher avec les deux. On veut bien assister à des rencontres d'église, mais on veut dans la semaine garder notre petite vie privée où nous vivons comme bon nous semble. Et ça n'est, c'est juste impossible. Ce que Pierre, que la parole de Dieu nous montre ici, c'est que ses premiers disciples sont ceux qui ont reçu la parole que Pierre a annoncée. Et qu'est-ce qu'il a annoncé? Il a dit « Sauvez-vous de cette génération, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé, et sauvez-vous de cette génération perverse, détournez-vous du mal. » C'est cela qu'ils ont reçu, ils l'ont accepté, ils l'ont mis en pratique. Et le texte continue en disant, eh bien, qu'ils ont continué. On voit ici la naissance de l'Église avec ceux qui se sont séparés du monde. L'Église de Dieu est composée de disciples et les disciples sont séparés et se séparent du monde et de ses passions et de ses plaisirs. On ne peut pas dire que l'on est disciple si on continue à vivre les mêmes choses que nous vivions dans le monde. Il faut absolument se séparer de la génération perverse et corrompue. On voit aussi que les disciples qui composent l'Église sont ceux qui reçoivent la parole de Dieu et y obéissent. Ils reçurent la parole et ils furent baptisés, ils se font baptiser suite à la réception de cette parole. Et ce sont ces personnes-là qui constituent l'Église. Donc l'Église est constituée de personnes qui sont, on l'avait dit la toute première fois, qui sont nées de nouveau, qui sont nées d'en haut, qui ont reçu une nouvelle vie, qui ont cru à ce qu'ils ont entendu de l'enseignement de la parole de Dieu, qui l'ont accepté, qui se sont repentis, leur vie a changé, et ils reçoivent, ils ont reçu, ils continuent à recevoir la parole de Dieu en s'y soumettant. L'apôtre Paul disait, aux Thessaloniciens ceci, il dit, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue comme, non comme, la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Et donc le disciple qui compose l'Église de Dieu, c'est celui qui reçoit la parole, non pas comme la parole d'un prédicateur, d'un homme. Parfois on peut avoir cette attitude, c'est un telle personne il prêche et dit ça. Ça c'est, telle personne il prêche et dit ça. Ça c'est son point de vue. Il dit, ici vous l'avez reçu, l'apôtre Paul dit, quand nous l'avons enseigné, vous l'avez reçu, non pas comme venant d'un homme, mais vous l'avez reçu comme la parole de Dieu. Et c'est cela, ça veut dire recevoir la parole. Ça ne veut pas dire simplement accepter ce qui est dit par un prédicateur. D'ailleurs, il faut toujours voir si ce que le prédicateur dit est conforme à la parole de Dieu. Hein, ce que les Juifs de Béret faisaient, hein, ils étaient empressés à contrôler à chaque fois ce que l'apôtre Paul même disait et voir si c'était... si ça concordait avec les Écritures. Telle doit être l'attitude du vrai disciple. Sa référence, ça n'est pas le pasteur, sa référence, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, quand elle est enseignée, elle doit être reçue telle qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit dans le cœur de ceux qui croient. Ils doivent la recevoir. Ils doivent croire à cette parole, ils doivent se soumettre à cette parole, ils doivent obéir à cette parole. Donc l'Église de Dieu est composée de disciples et les disciples sont ceux qui se séparent du monde, sont ceux qui reçoivent la parole de Dieu et qui continuent à la recevoir et à s'y soumettre. Elle est composée de ceux qui croient dans la parole et dans l'enseignement de cette parole. Regardez dans notre texte ici au verset 44, il est dit « Tous ceux qui croyaient » étaient dans un même lieu. Il n'est pas question de toutes les personnes qui étaient arrivées à Jérusalem à la Pentecôte. Vous vous rappelez au début du passage du chapitre 2, il est dit qu'il y avait une multitude, hein, chapitre 2 et au verset tout début du chapitre, hein, il est question d'une, verset 6, au bruit qui eut lieu, la multitude accouru. Il y avait des gens qui venaient de partout. La Bible dit qu'ils venaient de toutes les nations qui étaient sous le ciel. Et puis, l'apôtre Pierre prêche la parole et donc on voit des personnes qui sont touchées dans leur cœur par l'enseignement de la parole de Dieu. Mais plus loin, on voit ceux qui reçoivent cette parole, qui se constituent en Église. Et ce sont, nous dit notre texte maintenant, ceux qui croient, ceux qui continuent à croire. C'est ceux-là qui étaient ensemble. Donc l'Église est composée de disciples qui croient à la parole de Dieu. Ils ne sont pas, comme l'Épître aux Hébreux disait, de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme, de ceux qui croient pour sauver leur âme. Et puis enfin, je dirais aussi que l'Église est constituée, on le voit, donc tout ça c'est la même chose, mais simplement du point qui nous permet de renforcer, elle est constituée de disciples. Les disciples sont ceux qui sont sauvés. C'est ce que nous apprend le dernier verset, il dit que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est ainsi que Luc termine son récit et qu'il qualifie ceux qui composent l'Église. Les disciples sont ceux qui sont sauvés par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas d'eux, mais cela est le don de Dieu. Et donc notre texte nous montre de manière évidente qu'avec la naissance de l'Église, s'est opérée une distinction très nette, très claire entre ceux qui avaient reçu Christ, les disciples, et le monde. Donc l'Église d'un côté, et on pouvait voir, et le monde de l'autre. Cette distinction est à la fois visible, hein, on voyait bien qu'il y avait ce corps qui se réunissait, et qui, la Bible dit, il trouvait grâce auprès du peuple, hein, donc il y avait d'un côté le peuple, et puis d'un côté ces gens qui trouvaient grâce, donc c'était bien une église qui était visible, hein, dans le livre des Actes, hein, parfois on voit des gens qui essayent, qui n'osent même pas, la Bible parle de gens qui n'osent pas se joindre, hein, à l'église. Dans Actes 5, verset 13, il dit, il parlait des apôtres et tout ça, il dit, il y avait des gens qui étaient là et qui n'osaient se joindre à eux, hein. Donc il y avait, pour se joindre à eux, c'était bien quelque chose qui était distinct, qui était visible, et on voyait ces chrétiens particuliers. Et puis dans Actes chapitre 9, lorsque vous lisez la conversion de l'apôtre Paul, eh bien lorsque l'apôtre Paul, juste après sa conversion, se rend à Jérusalem, il y dit, lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux. À l'église chrétienne de Jérusalem. Mais tous le craignaient parce qu'ils ne croyaient pas qu'il fût un disciple. Voyez? Et donc, l'église, elle est constituée de disciples. Pour pouvoir y entrer, il faut être un disciple. Et celui qui attaquait l'église auparavant, on a du mal à croire. Il faut vraiment qu'il montre qu'il est un vrai disciple. Et vous voyez, c'était quelque chose. Et donc, quand il va à Jérusalem, il veut s'associer à quelque chose qui est bien visible. Mais c'est aussi, je crois, on voit à travers ce passage que l'Église est aussi lisible. L'Église, elle est visible, mais elle est aussi lisible. C'est la communauté de ceux qui reçoivent la parole, de ceux qui sont sauvés et de ceux qui croient, qui constituent l'Église. Donc ce n'est pas un ensemble de personnes réunies dans une salle, c'est vraiment une communauté de disciples. Personnes qui sont sauvées, qui écoutent, qui croient à la parole de Dieu, qui vivent cette parole. C'est ce que le Seigneur appelle Église ici. Je lisais dernièrement dans un livre, on parle maintenant de ce qu'on appelle l'Église émergente. Peut-être vous avez entendu parler de ça. Et donc il y a des partisans de ces églises qui disent que les changements dans la culture de la société annoncent aussi l'émergence d'une nouvelle église. Et les leaders chrétiens doivent s'adapter à l'église qui est en train d'émerger. Comme on dit, les anciens, les pasteurs doivent s'adapter à cette nouvelle église qui est en train d'émerger. Et l'une des priorités de ces églises émergentes, de ces mouvements qu'on appelle églises émergentes, eh bien, c'est qu'elles prônent l'appartenance avant le croire. On appartient à l'église avant de croire. Donc, il est question d'inviter les gens à appartenir à l'église, à les faire entrer dans l'histoire de l'église, à les faire participer à la vie de l'église, qu'ils se sentent accueillis, et le croire viendra ensuite. C'est juste le contraire que l'on voit ici avec l'église, la toute première église. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et après, à la fin du passage, le texte nous parle de l'église, de cette réunion, ils sont réunis et ils continuent à croire. Donc, la foi vient avant. Et c'est un mouvement qui prend, je crois qu'il a pris de l'ampleur aux États-Unis et qui peut gagner aussi l'Europe. Et puis même si on n'en parle pas, mais parfois on se comporte comme cela. On peut dire aux gens, mais viens à l'église, tu vas te sentir bien. Tu vas voir, c'est des gens qui sont chaleureux. Et puis, c'est bien, c'est pas qu'il faut pas venir. Mais après, on oublie de présenter l'essentiel. Et les gens peuvent se sentir bien, se sentir accueillis et croire qu'ils sont ce qu'ils ne sont pas en réalité. Penser qu'ils font partie de l'Église alors que selon la parole de Dieu, eh bien, ne font partie de l'Église que ceux qui sont sauvés. Quelqu'un a écrit ceci, quelqu'un que je connais, mais je partage pas ce point de vue, il dit, il faut faire la différence entre la stratégie et la théologie. Toute la difficulté est de pouvoir s'adapter au public, être pertinent sans sacrifier notre théologie. S'adapter, c'est par exemple ne pas déballer toute une théologie tout de suite, mais accompagner dans une pédagogie de l'accession à la foi, afin de communiquer tout le conseil de Dieu. Par exemple, Au niveau de la culpabilité, l'homme moderne occidental y étant peu réceptif, alors on n'est pas obligé de commencer par là. On peut commencer par autre chose, la quête du sens, de l'amitié avec le Christ, de la paix, le besoin d'être serein en soi-même, le besoin de communauté, de relations, et tenter de montrer que Dieu apporte tout cela, à condition de vouloir apporter petit à petit l'Évangile. Voilà le défi qui est posé. Moi, je trouve que c'est dangereux. C'est extrêmement dangereux. D'accord? Parce que ici, ce qui est dit, c'est qu'on n'est pas obligé de commencer par parler de la culpabilité, c'est-à-dire du péché, de la condamnation qui repose sur l'homme à cause de son péché. Et je lisais qu'il y avait une association qui s'appelle Arche, je crois, dans laquelle ces notions d'église émergente étaient très, très en vogue. Et la personne qui écrivait disait, en 12 ans précisément, elle a entendu parler de péché que deux fois. Elle dit, pourquoi parler de péché? Ça n'est pas important, c'est un fait. Ce dont nous avons besoin, ce dont nous avons envie, c'est de bonnes nouvelles. Donc, il faut annoncer la bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle, telle que la Bible décrit, elle parle de péché. Le Saint-Esprit est venu pour convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement. L'apôtre Paul, c'est ainsi qu'il prêchait. Et donc, c'est fondamentalement dangereux parce que, voilà, on commence pas dans le sens qui est prévu. Et je crois que cette première église de Jérusalem nous montre ce qui est important. Il faut croire. Et quand nous parlons aux gens, il ne faut pas que nous perdions de vue qu'ils sont pécheurs comme nous le sommes, qu'ils ont besoin de Christ et qu'il faut les mettre devant ce fait qu'ils doivent se repentir, qu'ils doivent accepter Christ, qu'ils doivent se détourner de cette génération perverse, qu'ils doivent se sauver de cette génération perverse. Il faut être avant de faire. Il faut croire avant d'appartenir à l'Église. Nous sommes anti-bibliques si nous faisons le contraire. Nous sommes anti-bibliques si nous faisons le contraire. Donc soyons extrêmement vigilants avec cela. Nous devons accueillir les gens qui veulent écouter la parole de Dieu. Mais nous ne devons pas les laisser prendre une certaine température et puis croire qu'ils font partie de l'Église alors qu'ils ne sont pas encore des enfants de Dieu. Nous avons une responsabilité à cet égard. L'Église de Dieu est composée essentiellement, exclusivement, de disciples. Et nous sommes appelés à faire des disciples et à enseigner à ces disciples la vérité de la parole de Dieu. Deuxième chose que l'on peut voir ici dans ce passage, c'est, j'ai noté cela, l'adhésion immédiate des disciples à l'Église locale. L'adhésion immédiate des disciples à l'Église locale. Que firent ces disciples une fois qu'ils ont reçu Christ et qu'ils ont été baptisés? Ils sont restés ensemble. Je crois que ce sur quoi le texte insiste le plus, c'est de nous montrer cette communauté qui s'est immédiatement constituée. Il est dit, tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu. Verset 44. Verset 46, il dit, ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Et au verset 47, il dit que le Seigneur ajoutait encore à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et donc notre texte montre que l'œuvre du Saint-Esprit pousse ces nouveaux chrétiens à se joindre à l'Église. C'est même l'un des premiers signes quand on se convertit. On ne se convertit pas pour rester un loup solitaire dans la nature. Quand une âme vient à Christ, elle s'associe avec d'autres chrétiens. C'est ainsi que le Seigneur l'a voulu. Ils se joignent à l'Église. Ils se convertissent, ils se font baptiser. Ils se joignent tout de suite à l'Assemblée. Il y a de nos jours des chrétiens qui se tâtent pour savoir s'ils doivent s'associer ou non à une assemblée. Et on trouve de plus en plus de chrétiens qui affirment ne plus faire partie, on l'a dit tout à l'heure, d'aucune assemblée. Et moi, je suis chrétien, mais les assemblées, les églises, je veux pas savoir. Ça ne m'intéresse pas. Certains disent que l'important, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est l'église, grande église universelle de tous les temps, de tous les âges, et pas l'église local. J'ai rencontré une fois un homme qui a fait dans les brocantes, il faut peut-être vous l'avez déjà rencontré, et il a une grosse pancarte et puis c'est écrit quelque chose, je sais plus qu'est-ce qui est écrit, il y a un verset de la Bible et il passe dans les brocantes. Et une fois avec ma femme, on a dit ah c'est bien ça, on va, je vais voir cet homme. Alors on l'a raté. Et puis on a espéré qu'on puisse le rencontrer. Donc on a fait le chemin à l'envers. Et puis lui aussi, il a refait le chemin à l'envers. Et donc on s'est croisés. On a fini par se croiser. On a discuté un petit peu. Et puis il m'a dit, ah, frère et tout. Et puis je lui ai demandé, mais où est-ce que tu assistes à l'église? Il m'a dit, aucune. Et puis il m'a dit, mon ministère, c'est d'être dans la rue le dimanche plutôt que de perdre mon temps dans une église. Alors je lui ai demandé, mais si vraiment quelqu'un se tourne vers Christ avec vous, et qu'est-ce que vous lui conseillez? Comment vous l'envoyez dans une... Il dit non, je lui conseille de lire la Bible et la parole de Dieu et le Saint-Esprit l'aidera. Mais si on lit la parole de Dieu, on voit que la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, que le Seigneur envoie son esprit sur ceux qui le reçoivent. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils se constituent en église. Donc la parole de Dieu, l'enseignement, c'est que l'Esprit de Dieu pousse les chrétiens à se réunir, à s'associer. C'est un signe. C'est un signe même qu'ils ont reçu l'Esprit de Dieu. C'est un témoignage d'église pour ceux du dehors. C'est un lieu où on peut grandir. Dieu veut que ses enfants s'associent en église. Les disciples, à cette époque, se sont joints immédiatement à l'église et ils sont restés. Ils se sont joints à l'église malgré les différences de nationalité. La Bible dit qu'il y avait des nations, des hommes de toutes nations qui venaient, de toutes nations qui étaient sous le ciel. Regardez. Acte chapitre 2 et au verset 5. Il y avait en séjour à Jérusalem des juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Ici. Regardez au verset 11. Il est dit, Crétois, Arabes, comment les entendons-nous parler dans notre langue des merveilles de Dieu? Verset 9 déjà, pardon, j'ai raté. Parthe, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois, arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils parlent même de leur langue maternelle. Ils étaient de nationalités différentes et de langues différentes. Et certainement, ils ont vécu là dans des cultures différentes. Et ils se sont quand même associés. Il y avait même des prosélytes. Les prosélytes, c'est des païens qui se sont tournés vers la religion juive. Et ils se sont associés, malgré la différence de nationalité. La diversité nationale n'était pas pour eux un problème. C'était pas un problème non plus pour ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. L'Esprit de Jésus n'est pas pour faire valoir la préférence nationale, comme on peut entendre parfois. Mais on voit que dès le début, le Saint-Esprit agit et met ensemble des personnes venues de toutes nations qui sont sous le ciel. Et seul l'Esprit de Dieu est capable de faire cela, de les unir ensemble. Et c'est un témoignage que Dieu donne. Et l'Épître aux Éphésiens dit que par l'Église, les dominations et les célestes voient la richesse de Dieu. Ils connaissent par l'Église l'infinie richesse de Dieu. En voyant cela. Ils se sont joints à l'Église immédiatement malgré la différence de langue, on l'a dit aussi. Ils se sont joints immédiatement à l'Église malgré les différences sociales même. Dans le texte, on voit qu'ils partageaient, il y en avait qui vendaient leurs propriétés et qu'ils en partageaient le produit, verset 45, entre tous selon les besoins de chacun. C'est qu'il y avait des besoins dans cette Église. Il y en avait qui avaient des besoins. Au Acte chapitre 4, versets 34 et 35, il est dit « Car il n'y avait parmi eux aucun indigent, car tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et déposaient cela au pied des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. » Donc il y avait des gens qui avaient des moyens et d'autres qui en avaient pas. Mais le Seigneur les met quand même ensemble. Enfin, il y a des gens qui cherchent des églises, cherchent que les églises qui nous ressemblent. Il y a des gens qui, j'entends des gens qui se vantent que dans notre église, ouais, il y a plein de médecins, d'architectes, de scientifiques. Oui. C'est pas ça qui fait une église. Ce qui fait une église, c'est cette union de personnes qui sont d'origine différente, de niveau social différent, de culture différente, de langue différente. Apocalypse, c'est ce qu'il dit, hein. Peuple de toute langue, de toute tribu, de toute nation. C'est cela, la beauté de l'évangile, la puissance de l'esprit qui agit dans l'église. L'addition à l'église est la volonté et l'œuvre du Seigneur. C'est lui qui ajoute chaque jour à l'Église ce qui était sauvé. Mais l'adhésion de l'Église est donc quelque chose d'important. L'adhésion dans l'Église locale est aussi quelque chose d'important. Et un écrivain, Marc Dever, disait ceci, il a écrit un livre qui s'appelle, vous connaissez peut-être, l'Église intentionnelle, il dit que l'adhésion à l'Église locale est le moyen par lequel nous délimitons les frontières de l'Église. Quand on regarde, il n'y a pas de texte dans la Bible qui dit « il faut adhérer à une église ». Mais, quand on regarde dans la Bible, on voit à travers les problèmes qui sont traités dans les églises qu'il y avait bien un corps constitué en église et une entité qui était reconnue, des gens qui étaient reconnus comme faisant partie spécifiquement d'une communion, d'une association. En 1 Corinthiens, qu'on a étudié, chapitre 5, versets 12 et 13, il apparaît vraiment clairement que Paul établit une frontière nette entre l'Église de Corinthe et le monde. Il dit, « Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors, n'est-ce pas ceux du dedans ?» Donc il y a ceux du dehors et ceux du dedans. Il dit, « C'est cela que nous avons à juger. Pour ceux du dehors, Dieu les juge. » Et après, il dit, « Ôtez le méchant du milieu de vous. » D'autres textes disent, « Excommuniez-le. » Mais pour le faire, il faut bien qu'il y ait une entité qui soit reconnue comme église, à laquelle ce corps appartient. On ne peut pas exclure quelqu'un qui n'appartient à rien, qui n'appartient pas à une association, vous comprenez? On ne peut exclure que quelqu'un qui fait partie, et où c'est reconnu qu'il fait partie de l'association. Donc ici, on a quand même des textes dans la Bible qui nous montrent que les gens étaient constitués, adhéraient à une église locale. Ils devaient répondre à cette église locale. Ils étaient disciplinés par cette église. Et c'était reconnu. Et plus tard, l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens, demandera de réintégrer la personne, de ne pas la laisser trop longtemps. Dans Timothée, je crois qu'il parle de veuves qui doivent être inscrites sur une liste. Hein, Donc, il y avait une structure, une organisation, il y avait une église, un corps qui était reconnu, dans lequel on appartenait, duquel on pouvait être exclu et dans lequel on pouvait être réintégré. Donc c'est donc la preuve qu'il y avait des églises local au sens où nous l'entendons, et que l'adhésion à l'église locale était une chose qui, même si ce n'est pas dit comme un commandement, mais qui se vivait dans ces églises. Troisièmement, on a vu que l'église locale est constituée essentiellement de disciples. Deuxièmement, que le disciple, le vrai disciple, il s'associe à l'église locale. Et puis troisièmement, j'aimerais terminer avec ce point, le vrai disciple s'engage spirituellement dans l'église locale. Et c'est ce qu'on voit dans ce texte. On voit qu'ils se sont associés, ils étaient ensemble, mais on voit qu'ils s'engagent spirituellement dans l'église locale. Ce texte dit, verset 42, « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain et dans les prières. » Si on nous pose la question, qu'est-ce que c'est que s'engager dans l'église locale? Qu'est-ce qu'une église locale doit faire? Il y a des gens qui ont beaucoup d'idées sur ce que l'église locale devrait être, ce qu'elle devrait faire. Et peut-être, comme on l'a dit tout à l'heure, on pourrait penser, ben c'est ça, voilà, toute cette implication sociale et ce que l'église locale doit faire. S'investir socialement auprès des autres, auprès de ceux qui n'avaient pas de quoi, auprès des démunis, auprès de tout cela. Bien sûr, l'église peut avoir un certain rayonnement dans ces choses. Mais ça n'est pas ce que nous enseigne la parole ici, en premier lieu. Il nous dit que les disciples de l'église doivent s'engager, non pas dans des œuvres sociales, non même pas dans les œuvres que l'église met en œuvre, mais ils doivent s'engager d'abord et avant tout spirituellement. Ils doivent s'engager d'abord et avant tout spirituellement. Une des questions les plus difficiles auxquelles on est à répondre, parfois en tant que pasteur ancien, c'est quand quelqu'un vient vous voir et puis vous dit, qu'est-ce que je peux faire dans l'église? Voilà. Je suis membre, maintenant dis-moi qu'est-ce que je peux faire dans l'église. Et vous devez vous transformer. Parfois, je vous dis même, pasteur, dis-moi quel est mon don. Hein? Et vous devez vous transformer en un spécialiste de bilan de compétences, faire un bilan de compétences spirituelles et puis dire aux gens, je pense que tu peux faire ci, je pense que tu peux faire ça. Et puis vous grattez la tête, vous dites, qu'est-ce que je pourrais bien? Oui, il y a ça qu'on pourrait faire à l'église. Ah, tu es bon, quoi. Tu fais de la mécanique, tu sais bricoler. Bon, on pourrait faire ça à l'église. C'est pas ça, l'église. On a besoin de faire ces choses, bien sûr. Mais ce que l'on voit ici, ce que l'Esprit de Dieu nous montre, ça n'est pas que l'Église doit s'investir doit faire exactement ce qui est écrit ici, c'est-à-dire vendre les biens, les propriétés, tout le monde vit ensemble, tous les jours on est au temple, etc. Ça, c'était lié à cette époque, à cette circonstance. Ce qui est important, c'est pas cette forme, mais c'est l'Esprit qui a amené à cette forme. Et ce que la parole nous montre ici, c'est que le chrétien doit s'investir dans l'église spirituellement. Il doit persévérer, et c'est le verset 42 qui nous le montre parfaitement, dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Tel doit être l'engagement spirituel du disciple dans l'église. Bien sûr, il peut participer à d'autres choses, mais ces choses sont secondaires. Dans une église, il pourra participer à cette chose, dans une autre église. Mais dans toutes les églises de Dieu, il devra s'engager de cette manière-là. Et c'est ce que l'Esprit nous laisse ici comme indication. Il doit s'engager spirituellement. Le Saint-Esprit accordé à ceux qui ont cru, à ceux qui ont reçu sa parole, à ceux qui se sont fait baptiser, les pousse à s'investir dans les choses spirituelles. Il est dit d'abord qu'ils sont engagés spirituellement avec constance. Regardez bien, il dit, il persévérait dans. Ça veut dire, il continuait. D'autres textes disent, ils étaient dévoués dans ces choses. Ils persistaient dans ces choses. Au verset 46, par exemple, il est traduit, le mot là qui est traduit par persévérer est traduit par assidu. Ils étaient assidus. Il y avait une continuité. Il montrait une constance, une continuité dans ces choses. Ce même mot utilisé par exemple dans Actes chapitre 10 nous dit « Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela deux de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attaché à, et c'est le même mot persévérer qu'on a entendu par persévérer, qui était attaché à sa personne. Donc c'est ce qui était appliqué, attaché à ces quatre choses que nous venons de citer, c'est-à-dire l'enseignement apostolique, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Ce sont quatre choses spirituelles. Il n'y en a pas beaucoup dans lesquelles le Seigneur nous demande d'être investi. Ce qui caractérise le disciple, c'est donc sa persistance, sa continuation, sa persévérance, son application dans les choses spirituelles, personnellement dans sa vie, mais aussi en tant que communauté, en tant qu'église. Il y a eu le feu d'artifice, hein, avec ce spectacle que les gens ont vu, l'esprit qui est descendu, les langues de feu, etc., le bruit comme le bruit du vent, les langues différentes qui ont été parlées. Mais après ici, on voit qu'il y a une continuation, feu permanent dans ces choses importantes. Donc, la constance dans cet engagement spirituel. Deuxièmement, on voit quelle est la nature de cet engagement spirituel. Le Saint-Esprit nous montre ce que doit être de tout temps, je crois, la préoccupation des chrétiens dans l'Église. La persévérance, donc, dans l'enseignement des apôtres. Ils avaient eu leur cœur vivement touché par les paroles de la prédication de Pierre. Ils ont reçu cette parole, mais ici on apprend que maintenant ils continuent à persévérer dans cet enseignement-là. Ils continuent à l'écouter, ils continuent à la recevoir, ils continuent à s'y soumettre. Et donc la croissance de l'Église est à ce prix, hein, au prix que le disciple accorde à la parole de Dieu, à l'exposition à la parole de Dieu, à son exposition à la parole dans sa propre vie, mais aussi à son exposition à la parole collectivement. Et donc nous pouvons nous poser la question, quelle place accordons-nous à la parole de Dieu dans notre vie? Si nous la lisons que le dimanche matin, que nous venons ici, ou que le mardi, nous avons un petit problème. Il nous faut placer la parole de Dieu à la place qu'elle doit avoir. C'est ce que le Saint-Esprit fait à travers ses premiers chrétiens. Il persévère dans la parole. L'Église ne peut croître que si la parole de Dieu se répand. On le voit beaucoup dans le livre des Actes, un verset par exemple où il dit « La parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. » Donc voyez, la croissance spirituelle et même quantitative de l'Église est liée à la progression, à la propagation de la parole de Dieu. C'est elle qui doit se propager. L'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens de prier pour lui. Il dit « Priez pour moi afin que la parole du Seigneur se répande, afin qu'elle court la parole du Seigneur et qu'elle soit glorifiée comme elle est chez vous. » Que la parole du Seigneur soit glorifiée. Paul prie pour que les chrétiens, demande aux chrétiens de prier pour que la parole du Seigneur soit glorifiée. Et elle est glorifiée quand on montre une persévérance dans son étude, une persévérance à son exposition. Bien que remplis du Saint-Esprit, voyez, les chrétiens continuent à se soumettre à l'enseignement des apôtres. Et on peut même dire, hein, que la marque de la plénitude de l'Esprit est la persévérance dans la doctrine apostolique. Ils ont dit, ah, maintenant il y a le Saint-Esprit, j'ai pas besoin d'écouter la parole de Dieu, le Saint-Esprit me dit, le Saint-Esprit me parle. On voit que, remplis du Saint-Esprit, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont soumis à l'enseignement de la parole de Dieu. Et ils n'ont pas dit qu'ils pouvaient être exemptés d'enseignement. Ni même d'enseignants. Ils n'ont pas dit, ah, on n'a plus besoin de toi, Pierre. Maintenant, il y a l'Esprit de Dieu qui nous guide. Nous avons l'Esprit de Dieu, nous pouvons comprendre la parole tout seul. Non, ils se sont encore soumis. Étant remplis du Saint-Esprit, ils se sont soumis à l'enseignement, par l'enseignant que Dieu avait prévu pour eux. Donc si vous devez choisir une assemblée, ne regardez pas si elle a une batterie sur l'estrade ou un gros piano. C'est pas ça qui est le premier critère de sélection. Cherchez à savoir si la parole de Dieu est enseignée dans toute sa sagesse, dans toute sa plénitude. Et faites en sorte de promouvoir la parole de Dieu dans votre assemblée, dans votre vie, dans votre foyer. C'est important. On voit deuxième, je suis passé assez vite, mais deuxième domaine où il persévérait, où il continuait, deuxième domaine spirituel, c'est le domaine de la communion fraternelle. Il persévérait dans la communion fraternelle. Qu'est-ce que la communion fraternelle? Nous avons peut-être notre définition propre pour ce terme. Pour certains, c'est le fait de se retrouver, de partager le repas, de parler, de prendre des nouvelles les uns des autres, de discuter du travail, des résultats des enfants à l'école. Mais on peut faire cela avec le voisin, non? Donc si on peut faire cela avec le voisin, ça n'est pas la communion fraternelle. Si la communion fraternelle, c'est de se retrouver ensemble, et puis de parler de choses et d'autres, on n'a pas besoin d'être chrétien pour faire ça. Et si l'Esprit de Dieu dit que c'est la première chose qu'il nous montre sur cette Église, c'est sa persévérance dans la parole et la persévérance dans la communion fraternelle, elle ne veut certainement pas dire qu'elle persévérait dans des choses que l'on peut faire sans l'Esprit de Dieu. Donc elle est en train de dire que cette communion spirituelle, cette communion fraternelle dont il est question ici, c'est quelque chose qui ne peut venir qu'avec le Saint-Esprit. C'est quelque chose qui ne peut concerner que de véritables disciples, que de véritables chrétiens. Et donc si on partage, et le sens ici de la communion, c'est le mot veut dire participer, partager. Si on partage, c'est qu'on a quelque chose en commun à partager. Et qu'est-ce que l'on a en commun à partager ici? Eh bien, c'est vraiment la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Qu'est-ce que les chrétiens ont en commun à partager que personne d'autre n'a? C'est pas le travail. C'est pas une femme, c'est pas des enfants. C'est Jésus-Christ qu'ils connaissent comme leur Seigneur et leur Sauveur. Ce qui veut dire que lorsqu'il est question ici de communion fraternelle, il est question de partage dont Jésus-Christ et son œuvre constituent ce que ces chrétiens ont en commun. Leur conversation portait sur ce que Christ a fait pour eux, sur qui était Christ, sur l'Évangile. C'est ça que ça veut dire, la communion. C'est ici qu'elle est. Les propriétés qui étaient vendues, ça c'est une forme matérielle de communion. Mais la communion première spirituelle dont il est question ici, c'est celle qui consiste à parler de l'œuvre de Christ, à avoir cela comme partage entre frères et sœurs. C'est-à-dire on ne s'évanouit pas tout de suite après le message à parler d'autre chose. Mais on converse encore sur les choses qui concernent l'Esprit de Dieu. L'apôtre Jean disait ceci, il dit « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, que nous avons contemplé de nos mains, que nous avons touché concernant la parole de vie, car la vie était manifestée, nous l'avons vu et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons afin que vous aussi vous soyez, quoi, en communion avec nous. Et, ajoute-t-il, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Autrement dit, si vous voulez avoir communion avec les apôtres, c'est en Jésus-Christ que vous pouvez l'avoir. C'est pas dans les autres choses. La communion spirituelle dont il est question ici, c'est celle qui consiste à avoir Christ en partage, et que nos cœurs remplis parlent, témoignent de lui, comme ce jeune homme qui a rencontré cette jeune fille, et puis partout où il est, eh bien, il trouve toujours le moyen d'en parler. Vous parlez de moteur automobile, il trouve le moyen d'arriver sur elle. Tellement sa relation avec elle remplit son cœur. Et la relation du chrétien avec Christ doit être telle que ce qu'ils partagent entre eux, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le centre de leur partage. Et c'est cela qui est la communion. Et puis, il parle aussi de la fraction du pain. Il continue à persévérer dans la fraction du pain. Il continue dans la célébration du repas du Seigneur. Je ne vais pas revenir là-dessus puisqu'on est en train de le faire de manière bien détaillée. Mais je voudrais faire remarquer que le texte dit qu'il persévère là-dedans. Il continue à le faire là-dedans. Il n'avait pas beaucoup de connaissances. Il n'avait pas de Bible. Il n'avait pas de Nouveau Testament. Et pourtant, il continuait à persévérer dans la fraction du pain. Ils ne se sont pas soustraits à la célébration de la scène. C'était important pour eux. Dans la toute première église, quand ils reçoivent la plénitude du Saint-Esprit, parmi les quatre choses qu'ils font, une est essentielle aussi, la célébration du repas du Seigneur. Et la Bible dit qu'ils persévéraient là-dedans. Tous. La participation à ce repas est une communion spirituelle réelle avec Christ. C'est ce qui leur rappelle ce que Christ a fait pour eux. C'est le moyen par lequel ils sont en communion réelle, intime avec Christ. C'est aussi une prédication, l'apôtre Paul dit, chaque fois que vous le faites, vous proclamez la mort de Christ jusqu'à ce qu'il vienne. Et cela fait partie intégrante de leur culte et de leur engagement spirituel dans l'église locale. Et puis dernièrement, il dit aussi qu'il persévérait dans les prières. Quatrième domaine, comme domaine de persévérance, c'est la continuation, l'application dans le domaine de la prière. C'est certainement l'une des rencontres de l'église qui sont les plus désertées. Partout. Les réunions de prière sont les réunions qui sont souvent les plus désertées. Et pourtant, combien d'exhortations dans la Bible trouvons-nous à la persévérance dans la prière? Je lis juste une seule, Colossiens 4, 2. Il dit « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. » Et c'est ce que Paul écrit à l'église, aux Colossiens. On a parfois beaucoup de reproches à faire à l'église sur son fonctionnement, ses manquements, sur ce qu'elle n'a pas bien fait. Mais on pourrait se poser une question. Combien de fois ai-je assisté à la rencontre de prière dans mon église cette année, alors que j'aurais pu le faire? Parfois, il y a des situations où on ne peut pas. Alors que j'aurais pu le faire, combien de fois ai-je assisté à la réunion de prière dans mon église? Allez, sur les 10 dernières années, combien de fois ai-je assisté à la réunion de prière dans mon église locale? On a à apprendre de cette première église. Elle continuait à persévérer dans les prières. Si nous sommes préoccupés par la croissance de l'Église de Dieu, il ne faut pas regarder les défauts et pointer du doigt les défauts. Ce que nous devons faire, c'est que nous devons prier pour l'Église, non seulement prier pour l'Église, mais prier à l'Église. Nous réunir, participer pour prier avec elle. Et pas la pointer du doigt sur les difficultés qu'elle peut rencontrer. Quelle tendre image que celle de toute cette première assemblée de disciples conscients de leur manque et cherchant leurs ressources en Dieu par la prière. On voit, je n'ai pas le temps de le voir, mais elle prie lorsque tout va bien, en Actes chapitre 2, verset 42, mais elle prie aussi lorsqu'il y a des difficultés. Actes chapitre 4, verset 24 à 31, on n'a pas le temps de lire ce texte, mais vous pouvez le lire à la maison, où il dit que tous, ils sont menacés et ils vont prier Dieu et tous élèvent la voix vers Dieu, tous ensemble, la Bible dit. Et ils demandent à Dieu, donne-nous de pouvoir annoncer ta parole avec assurance. Et la Bible dit que quand ils ont fini de prier, eh bien le Saint-Esprit les a remplis et ils ont annoncé la parole de Dieu avec assurance. Mais tous ensemble, ils étaient. Lorsque l'apôtre Pierre était en prison, il dit que tous ensemble, l'Église était en train de prier. D'accord? L'Église était en prière. C'est beau ça. L'Église était en prière. Lorsque l'apôtre Pierre était emprisonné. L'Église. Il n'a pas dit qu'il y avait des chrétiens par-ci, par-là qui priaient. L'Église était en prière. Et l'apôtre Pierre, quand il est délivré, vous savez ce qu'il fait? Il réfléchit un tout petit peu, Actes chapitre 12, il réfléchit, et puis il dit, où est-ce que je peux bien aller? Et se souvient, chez Marie, la mère de Marc, eh bien, il y a une réunion de prière. Et la Bible dit que les disciples étaient réunis là, dans la maison, et ils priaient. C'est ça, chers frères et sœurs, je crois. L'engagement spirituel dans lequel nous sommes appelés en tant que disciples. L'engagement dans ces quatre domaines spirituels. Le reste sont des conséquences. Mais ce que l'Église doit faire, c'est, les chrétiens de l'Église doivent faire, c'est s'engager dans ces choses. Que cette année qui vient soit pour nous, je termine là-dessus, une année où nous pouvons chercher à ressembler à cette Église naissante, non pas dans ce qu'elle a fait, mais dans ce qu'elle était, parce que ce qu'elle était et ce que le Saint-Esprit en a fait. Ce qu'elle a fait dépend des circonstances dans lesquelles elle vivait. Et ce ne sont pas les mêmes que les nôtres. Mais l'Esprit qui a guidé ce qu'elle a fait, c'est le Saint-Esprit. Et il nous guide dans la même direction, dans un engagement spirituel véritable de l'Église. Pas dans les choses que l'on peut faire avec nos doigts, mais dans ce que l'on peut être avec cette Église, dans nos associations, dans la participation, dans l'exposition à la parole, dans la communion fraternelle, le partage des choses qui concernent le Seigneur Jésus-Christ, dans l'assiduité au partage de la table du Seigneur, et puis dans la réunion de prière. Et que cela soit à la fois à l'Église et aussi dans nos maisons. C'est ce que l'on voit pour cette Église. Prions. Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui est la vérité. Merci pour cet exemple de l'Église, de toute première Église de Jérusalem où nous voyons ton esprit agir au sein d'elle. Et nous te prions de nous donner de réviser les conceptions que nous avons parfois sur l'Église ou sur nous-mêmes. Et de nous soumettre à la direction de ton Esprit Saint. Notre Dieu, nous voulons te prier pour les personnes dans cette salle qui ne te connaissent pas. Et il y en a. Pour que ton Esprit les touche. C'est toi qui ajoute à l'Église. C'est toi qui sauve. C'est toi qui appelle. C'est toi qui attire. Toutes ces choses viennent de toi. Le salut vient de toi. Et nous implorons ce matin ta grâce pour que tu touches ces cœurs et que tu les attires à toi. Il y a des personnes qui sont ici depuis leur jeune âge, mais qui ne te connaissent pas encore, Seigneur, que tu les touches dans ta grâce, que tu fasses d'elles tes disciples. Nous te prions pour tes disciples et nous te demandons, Seigneur, de les convaincre par ton esprit. De les soumettre, de nous soumettre à ta parole. De nous donner d'aimer l'Église comme tu aimes l'Église. D'aimer aussi l'Église locale, de nous associer avec elle, de nous investir spirituellement en elle, avec elle. Aide-nous à travailler à ce à quoi tu travailles. Et Seigneur, que cette année soit une année où la parole soit une année où la communion, une année où la célébration est à table, une année où les prières puissent constituer, Seigneur, nos préoccupations et l'objet de notre culte. Nous te prions de nous guider pour la gloire de ton nom et que notre témoignage auprès de ceux du dehors soit conforme à ta parole. Aide-nous, nous t'en prions, en ton nom et pour ta seule gloire. Amen.